Vous écoutez
RMC.
Allez, bon réveil, RMC 7h. Stéphane Genest, Stéphanie Rock, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une du journal.
La réforme des retraites et l'opération séduction d'Elisabeth Borne, députée LR. Et le gazole qui devrait coûter plus cher dans les prochains jours, conséquence de l'embargo européen sur les produits pétroliers russes.
En rugby, c'est le coup d'envoi du tournoi des Six Nations. La France, tenante du titre, se déplace en Italie cet après-midi.
La matinale week-end.
Mais d'abord, c'est l'image de la nuit. Les États-Unis viennent d'abattre le mystérieux ballon qui survolait le pays ces derniers jours.
Ballon d'origine chinoise, de la taille de 3 bus, environ 40 mètres, opéré à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Washington, qui estime qu'il s'agissait d'un appareil d'espionnage, qui a donc décidé de le détruire. Une décision qui ne va pas arranger les relations sino-américaines, d'autant que ce matin, Pékin exprime son fort mécontentement, Martin Cadoret.
Oui, la Chine accuse les États-Unis de réagir de manière clairement excessive et de violer gravement les pratiques internationales. Ce ballon était présenté comme une sonde météorologique à la dérive par Pékin, mais le Pentagone assure que la Chine a tenté de surveiller des sites stratégiques, notamment dans le Montana où se trouve un silo de missiles nucléaires. Il a donc été abattu par un missile lancé depuis un avion de combat hier au large des côtes de Caroline du Sud. De nombreux Américains ont filmé l'opération avec leur téléphone. Wow. Les États-Unis ont donc gagné la bataille de l'image, explique Emmanuel Véron, docteur en géographie et spécialiste de la Chine contemporaine.
Il y a la véritable volonté de la partie américaine de montrer à la face du monde, mais aussi à la société américaine, qui va entrer dans une campagne présidentielle. On voit une agitation de politique intérieure, des débats sur les mesures à prendre par rapport à ce ballon sonde, qui est évidemment un sujet de maîtrise de la communication et de l'image.
Les États-Unis vont désormais récupérer les débris du ballon tombé dans l'eau pour analyser les technologies utilisées par la Chine.
Les explications de Martin Cadoret. Merci Martin. Par ailleurs, toujours aux États-Unis, le Nord-Est et le Canada sont paralysés par un épisode hivernal spectaculaire. Les températures ont dégringolé hier sous la barre des moins 40 degrés.
RMC 7h02. En France, c'est évidemment la réforme des retraites à la une et les tractations qui s'intensifient entre la majorité et les Républicains.
Le chef de file LR, Éric Ciotti, qui dans le Parisien aujourd'hui en France pose ses conditions. Si le gouvernement écoute ses propositions, le 49-3 ne sera pas nécessaire, notamment sur la question des carrières longues. Eh bien, Elisabeth Borne semble avoir compris le message ce matin dans le journal du dimanche, puisque la Première ministre affirme que les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourraient partir à la retraite à 63 ans. Mais ce n'est pas assez pour Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais.
Les annonces qu'elle fait ne reprennent pas l'amendement du groupe signé par les 62 députés Les Républicains. Ceux qui, dans le groupe Les Républicains, voulaient voter contre le texte parce qu'il n'y avait pas ce dispositif, ne voteront toujours pas le texte. C'est mon cas. Si notre amendement n'est pas adopté, a priori elle a fermé la porte dans cette interview, je voterai contre le projet de loi et je voterai pour la motion de rejet préalable. Et ceux qui voulaient déjà voter pour, eh bien écoutez, voteront pour. Donc ça change absolument rien.
Et justement, c'est demain que le texte est débattu à l'Assemblée nationale avec 20 000 amendements qui ont été déposés. Mais un article concentre toute l'attention, c'est l'article numéro 7, Romain Cluzel.
Un article crucial parce que c'est cet article qui reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Conséquence, une grande partie des amendements concernent uniquement cet article, notamment de la part de la NUPES. Plusieurs centaines d'amendements demandent par exemple des dérogations pour le report de l'âge profession par profession. Les députés vont devoir assumer de voter contre les aides-soignantes, les égoutiers, les enseignants, anticipe un socialiste. Les Républicains ne sont pas en reste. 25 d'entre eux ont signé des amendements demandant le retrait pur et simple de cet article. Pour certains, c'est une position ferme à la réforme, mais pour d'autres, c'est un moyen de pression pour obtenir des garanties sur d'autres aspects du texte. Par exemple, les carrières longues. En tout cas, la plupart des oppositions le clament. Il faut absolument débattre de cet article dans l'hémicycle, symbole absolu de cette réforme. C'est pas gagné. En commission, les débats se sont terminés bien avant d'atteindre ce fameux article 7.
Romain Cluzel du service politique de RMC, puis à noter aussi ce matin, la chanteuse Aya Nakamura, victime de chantage à la sextape. Des vidéos intimes d'elle enregistrées sur des tablettes ont été volée chez elle lors d'un cambriolage. Son maître chanteur menace de les divulguer. L'artiste francophone la plus écoutée au monde a décidé de porter plainte.
Et puis question ce matin, va-t-on payer encore plus cher le plein de gasoil dans les prochains jours?
C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'embargo européen sur les produits raffinés issus de Russie. Ils sont notamment concernés le gasoil, donc, hein, vous le disiez Mathieu, mais aussi le butane, le propane, le fioul domestique ou encore le kérosène. Et ça risque de poser problème à la pompe pour le gasoil puisque c'est le principal produit raffiné russe importé en Europe. l'Europe. Près de la moitié venait de la Russie avant la guerre. Alors quoi qu'il en soit, Martin Bourdin, il y aura évidemment des conséquences sur le prix de notre plein.
Jusqu'à présent, lorsqu'un Européen comme vous ou comme moi mettait 10 litres de gazole dans le réservoir de sa voiture, 1 litre venait de Russie. Il faut donc trouver d'autres solutions. Les raffineurs ont eu le temps de préparer cet embargo, de trouver d'autres solutions d'approvisionnement, importer du gazole du Moyen-Orient ou d'Inde par exemple.
Du diesel, on trouvera en importé, mais il viendra de plus loin et il va falloir le payer un peu plus cher.
Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières, craint donc que les prix à la pompe continuent d'augmenter.
L'effet que ressentiront tous les gens à la pompe, c'est de voir que l'écart actuel entre le prix de l'essence sans plomb 95 par exemple et le prix du diesel, qui est de 3-4 centimes à peu près, il devrait augmenter. Dans quelle proportion, c'est difficile à mesurer. Je ne serais pas étonné qu'on ait un écart d'une dizaine de centimes au mois de mars.
Mais le but de cet embargo, c'est de peser sur les finances de la Russie. Ça devrait fonctionner d'après plusieurs spécialistes, car si d'autres pays, la Chine par exemple, seront toujours acheteurs de pétrole russe, ils le régleront environ 30% moins cher que ce que payait l'Union européenne.
RMC 7h06. Le sport, Stéphanie Roch, ils n'ont pas perdu un match depuis un an et demi. Les 15 des Bleus débutent aujourd'hui le tournoi des 6 nations.
Dans la peau d'un favori tenant du titre, l'équipe de France qui reste sur 13 victoires consécutives affrontera l'Italie cet après-midi pour le capitaine Antoine Dupont. La dynamique du moment doit porter les Bleus.
À l'abri, on ne l'est jamais, mais je pense qu'il faut arriver à prendre de la confiance de notre série de victoires, de ce qu'on fait depuis quelques années, mais tout en gardant cette vigilance, cette remise en question perpétuelle qui permet de ne pas dormir et de ne pas se faire surprendre sur un match, sur une action, sur un fait de jeu, de garder vraiment cette vigilance-là au quotidien. Les statistiques, je pense que depuis 3 ans maintenant, on ne les a pas trop respectées, donc espérons que ça continue.
Un tournoi destination qui va servir de test à quelques mois de la Coupe du Monde organisée en France. Pour notre consultant Denis Charvet, le 15 tricolore a de sérieux arguments à faire valoir cette saison. De quoi être optimiste.
C'est pas utopique de penser que l'équipe de France peut gagner le tournoi, voire le Grand Chelem. L'équipe de France a beaucoup d'ambition, elle le déclare. Je trouve que c'est bien qu'on ait de l'ambition. Après, il faut rester en haut. Pour que les adversaires vous craignent, il faut gagner des trophées, gagner le tournoi, gagner la Coupe du Monde. Donc on est sur une bonne voie, mais il faut continuer dans le même sens.
Le tournoi qui a débuté hier avec les victoires de l'Écosse sur l'Angleterre 29-23 et de l'Irlande au Pays de Galles 34-10. Italie-France, ce sera à suivre cet après-midi en direct sur RMC dès 16h.
Et à 7h40 tout à l'heure, Wilfried Templier et Denis Charvet seront avec nous et avec vous bien sûr pour nous parler de ce premier match du 15 de France. Il y aura aussi du football à vivre sur RMC suite de la 22e journée de Ligue 1.
Avec un alléchant Marseille-Nice en clôture de cette journée, un choc entre deux équipes en forme. L'OM qui a récupéré cette semaine la deuxième place du classement et qui impressionne l'entraîneur niçois Didier Digard.
Ce qu'ils font en ce moment, c'est impressionnant. C'est vraiment beau parce que avant c'était surtout un défi physique qui proposait. Et maintenant, ils ont réussi à aussi animer offensivement. Donc, ça donne vraiment une équipe très, très difficile à jouer.
Marseille-Nice, l'occasion de voir sûrement les recrues qui ont animé les dernières heures du mercato. Le portugais Vitinha, côté marseillais, pourrait entrer en cours de match. Et le Nigérian Terem Moffi pour les Niçois. Un temps espéré d'ailleurs du côté de la Canebière. Il avait donné sa priorité à l'OGC Nice. Match à vivre en direct dès 20h45 sur RMC. Hier, c'est le leader Paris qui jouait. Victoire 2-1 au forceps face à Toulouse. Lyon, de son côté, se relance à 3-1. Lille réalise la bonne opération du soir en allant s'imposer à Rennes 3-1 également.
Merci Stéphanie Roch, 7h08. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 9h. On se réveille, on s'informe. On se divertit quand l'occasion se présente. Vous savez qu'on est là, évidemment. Et on attend vos messages avec Peggy.
Oui, Patrick nous dit bonjour, très poétique. Il dit hello l'équipe, un grand bonjour plein de tendresse et d'affection. Que ce matin soit pour
Patrick.
Tous un moment de paix et d'amour dans les cœurs. Moi, j'aime beaucoup. Merci Patrick. Jamel, alors écoutez bien aussi Mathieu. Bonjour l'équipe, je me régale tous les week-ends en votre compagnie. Donc, en retour, petit compliment du matin. Au judo, il y a Teddy Riner. Au tennis, Djokovic. Ouais. Au foot, le Real de Madrid. Et à la radio, votre émission.
Oh
bon
là là là,
c'est
là
trop mignon, merci Jamel.
Champion du monde, ah mais ouais. C'est grâce à vous, bien sûr. Salut Jamel et salut Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous les deux.
Dans l'Essonne, Stéphane. Bah ça va, bien réveillé en ce dimanche matin.
Bah je viens de me réveiller, j'ai allumé RMC tout de suite, je viens de me réveiller.
Ah c'est le premier réflexe en se réveillant, Stéphane.
Voilà, c'est RMC. Ça écoute.
Alors attendez,
et
ça
puis
veut
j'ai
dire
entendu
que
une réflexion qui m'a fait hérisser les poils.
Ouh là 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 là.
Dites-moi.
Comme quoi on donne la parole à tout le monde. Hein.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, je plaisante. Mais oui, la France va encore perdre l'Eurovision.
J'étais sûr. J'étais sûr.
Voilà, comme au rugby, l'équipe Eurovision France a de l'ambition. Je viens d'entendre que
par rapport au rugby,
la France a de l'ambition. Bah, donc, on a déjà gagné l'Eurovision Junior cette année.
Oui, c'est vrai.
Et puis, avec la Zara, on espère faire quelque chose. Là. Et puis, on a eu Amir, on a eu Barbara Pravi. Non, je pense que.
Vous voilà, suivez chaque année, pense... vous
Oui,
c'est un grand rendez-vous, a priori.
J'ai l'impression qu'on parle à un expert. Là.
Ah, ouais.
Hier soir, il y avait la sélection norvégienne, j'ai suivi.
Ah ouais.
Et puis espagnol aussi, la RTE, ils ont fait un fil rouge toute la journée avec le festival qui avait lieu le soir. Donc,
vous avez déjà des pronostics parce qu'on sait qu'il y a des bookmakers pour l'Eurovision, vous en faites partie visiblement.
Ah oui, c'est clair. Oui, 4-5,
là, il n'y a que 4-5 chansons connues là, pour l'instant. Et c'est l'Ukraine. Oui. L'Ukraine, elle est pas mal la chanson, ouais, j'aime bien. Ouais.
Celle de la France, je crois qu'on la connaîtra d'ici 15 jours. Et d'ailleurs, Lazara, on essaiera de l'inviter dans la matinale week-end d'RMC, puisque ça vous passionne, mais je suis sûr que d'autres sont passionnés par l'Eurovision. J'ai juste une boutade, parce que quand même, la dernière en date, Marie-Myriam, hein, Stéphane, nous sommes d'accord.
Oui,
ça commence à remonter, quoi.
C'était au siècle dernier, c'est vrai.
Oui, mais bon, Barbara Pravi, c'était très bien. Amir, c'était très bien. Voilà.
On avait eu Amina, on a failli gagner. La Suède nous a volé la victoire avec. On était à égalité, le même nombre de points.
Ah oui. Vous tenez un carnet, c'est pas possible.
Comment ?
Vous tenez un carnet, vous êtes un pro de l'Eurovision.
Ah oui, professionnel. J'ai beaucoup de passion, le sport, tout ça, puis aussi le.
Eh ben, on se rappellera au mois de mai.
Ah bah alors, oui,
Stéphane,
bah oui.
Merci de ce petit.
Oui, je vous avais déjà appelé là. C'était pour la Coupe du Monde de football.
Ouais.
Je me rappelle où j'étais complètement stressé parce que je sentais pas. Bon, vous m'avez pas rappelé, donc je me suis dit, bah ils ont senti, c'est moi qui.
Qui donne de mauvaises ondes.
Mais non.
Bon, on espère que ça ira mieux au mois de mai. Merci Stéphane. Bon dimanche à vous. Si vous venez de vous réveiller, allez vous habiller là, hein, parce qu'on vous imagine, premier réflexe d'allumer RMC encore en pyjama. Tranquille, hein.
Voilà, pas de problème. Je suis votre conseil.
Salut Stéphane, à bientôt.
Allez, bonne journée. Au revoir.
Il est 7h12. Allez, dans un instant.
Qu'attend-on pour imposer le port du casque à vélo ?
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend ? 244 cyclistes morts sur les routes de France en 2022. C'est plus 30% par rapport à avant le Covid. Est-ce qu'il faut enfin rendre obligatoire ce casque à vélo ? 32-16, à vous de nous dire. On en débat dans 2 minutes.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault. Allez, 7h15, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à 9h, c'est dimanche matin. Vous vous apprêtez peut-être à faire la petite sortie vélo du dimanche. Prudence sur la route.
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour Margot.
Bonjour à tous.
La question du jour sur notre compte Twitter, mais aussi avec vous au 32-16. Faut-il rendre le casque à vélo obligatoire ?
Et on vous pose la question parce que cette semaine, la sécurité routière a publié son bilan de la mortalité sur les routes en 2022. Et les chiffres ne sont pas bons pour les cyclistes. La sécurité routière parle même d'une année noire. 244 cyclistes ont perdu la vie, 30% de plus qu'en 2019, l'année référence d'avant Covid. Hausse aussi importante pour les blessés à vélo, plus 13%. Le profil type des victimes, dans 40% des cas, il s'agit d'un homme de plus de 55 ans qui roule sur une route hors agglomération, sur une route de campagne, là où on sait que la vitesse de collision avec une voiture est bien plus importante qu'en ville.
Année noire pour la sécurité des cyclistes donc, et qui relance ce vieux débat sur le port du casque à vélo.
Oui, parce qu'on l'ignore peut-être, mais le port du casque n'est pas obligatoire, il est seulement recommandé. Seule obligation pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient passagers ou au guidon, et pour les utilisateurs de trottinettes hors agglomération. Mais depuis plusieurs années, les politiques s'emparent du sujet. En 2019, un député a présenté un amendement à la loi d'orientation des mobilités sur le sujet. Débat relancé l'année dernière par un sénateur centriste, François Bonneau. On l'écoute au micro RMC de Martin Bourdin.
Je perds pas de vue ce combat que j'espère bien qu'on pourra gagner collectivement. On a eu le débat à une époque dans notre pays sur mettre la ceinture ou pas la mettre dans la voiture. Le débat se pose plus. J'aimerais que pour le casque, on en arrive au même constat. Même si ça sauve pas toutes les vies, bien évidemment. Il y a des études extrêmement sérieuses qui montrent qu'avec le port du casque, on a plus de chances de survivre et que s'il y a des séquelles, elles seront moins graves.
Oui, le port du casque réduit en effet de 30% le risque de blessure à la tête, selon une étude menée dans le Rhône sur 10 ans. Le casque est 4 fois plus efficace hors agglomération qu'en ville. Alors, 2 pays l'ont déjà rendu obligatoire, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Au Portugal et à Malte, c'est le cas, mais uniquement pour les vélos électriques.
Mais, et c'est surprenant, les associations de défense des cyclistes ne sont pas du tout favorables à cette obligation.
Oui, imposer le port du casque à tous les cyclistes rend la pratique moins attractive, selon ces associations. et décourage les utilisateurs occasionnels. Les associations pensent qu'il faut encourager la pratique du vélo, pas la restreindre, même si elles reconnaissent que c'est une protection importante. Le casque n'est pas l'urgence, mais bien l'absence ou le manque de pistes cyclables. Les associations pointent également le problème du retour des 90 km/h dans 45 départements, ce qui augmente la dangerosité sur la route.
Moi, je veux bien que le problème soit des infrastructures, mais on ne va pas mettre des pistes cyclables sur toutes les routes de campagne. C'est infaisable. À vous de nous dire, est-ce qu'il faut imposer le casque ?
Très large majorité de oui ce matin, 79%. Et beaucoup d'internautes comme Santiago qui s'étonnent, ce n'est pas normal qu'il ne soit toujours pas obligatoire. D'autres comme Jean-Michel demandent une formation au code de la route et une plaque d'immatriculation pour inciter les cyclistes à respecter les règles en plus du casque. Jean-Pascal témoigne, le casque m'a sauvé la mise à quelques reprises et mon fils il y a 2 semaines.
Merci Margot Bourdin, c'est à vous au 32-16. Tiens, Gilles nous attend déjà.
Bonjour,
les Sables d'Olonne en Vendée. Bonjour Gilles, d'abord chanceux hein, les Sables d'Olonne en Vendée.
Merci.
Non mais vraiment, je vous le dis, je suis jaloux Gilles. Vous êtes cycliste ou pas?
Oui, tout à fait, oui.
Avec un casque?
Tout à fait, bien sûr.
À chaque sortie, Gilles?
À chaque sortie, tout à fait.
Même les petits chemins, les trajets que vous avez l'habitude d'emprunter, le casque systématiquement, c'est comme un réflexe?
Bah, c'est comme un réflexe et puis c'est un devoir de montrer le bon exemple à mes enfants aussi.
Et vous l'utilisez que pour vous balader ou pour aller travailler au quotidien?
Bah, c'est surtout c'est pour mon activité sportive, je le porte. Et puis maintenant, même pour mes petits trajets, je le porte toujours.
En fait. Non, mais le vélo, en fait, c'était ma question. Oui.
Le vélo, c'est surtout pour mon activité. Oui, c'est pour les deux au sable.
Quand vous dites, pour donner l'exemple à mes enfants, parce que c'est vrai que c'est obligatoire, en dessous de 12 ans, ils ont quel âge, vos enfants?
Ils ont 5 et 6, mais bon, c'est comme ça, c'est dès le plus jeune âge, on leur montre les bons réflexes.
Effectivement, et quand on dit à un enfant, mets ton casque, forcément, le parent doit le mettre aussi, parce que sinon, j'imagine que c'est non, papa, pas de casque.
Bah oui, tout à fait, voilà, il faut leur montrer le bon exemple dès le plus jeune âge, et c'est pour ça que moi, je le mets tout le temps avec eux, sans eux. Et comme ça, ça leur implique déjà que le casque, c'est comme la ceinture en voiture. Quoi. On monte dans la voiture, on met la ceinture, on prend le vélo.
Et on n'y pense plus. Je ne suis pas en train de dire que le casque va régler tous les problèmes et que ça fera fortement baisser la mortalité. Malheureusement, ça n'est pas la seule solution. Mais c'est vrai que je suis assez étonné par les associations de cyclistes qui disent « Ah, mais ça va décourager certains de mettre le casque, de venir faire du vélo. Le problème, c'est les infrastructures. » Enfin bon, y a de plus en plus de cyclistes, c'est indéniable, c'est très bien pour l'environnement, c'est très bien pour les mobilités, mais il y a un moment, il faut aussi assurer la sécurité, Gilles.
Ah ben tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est notre sécurité, ça peut nous sauver d'un traumatisme crânien,
bien sûr.
Et je pense pas que ce soit rébutoire pour faire du vélo, quoi, porter le casque, c'est comme quand on va faire du ski, on met un casque quand on fait du ski parce que si on tombe, on peut faire un traumatisme au crâne. C'est pour nous sauver. Quoi.
Et d'autant plus, même en ville, hein, c'est-à-dire que là où il y a des infrastructures, j'imagine dans une station comme les Sables d'Olonne où l'été, c'est une affluence de touristes. Parce que je pense à ça parce qu'il y a Fred qui nous écrit, oui, le casque obligatoire, y compris sur l'île de Ré. Le nombre d'accidents l'été sur l'île de Ré, parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo. Vous les voyez aussi l'été, Gilles?
Alors l'été, je suis beaucoup au travail, mais oui, c'est. Alors je pense qu'il faut porter le casque et puis revoir l'éducation aux gens aussi. Leur pratique de vélo aussi, voilà.
C'est-à-dire?
L'essence interdite. Ouais.
Il faudrait qu'ils passent un code limite.
Respecter le même code de la route, que ce soit en vélo ou en voiture, quoi.
Vous avez beaucoup de pistes cyclables près de chez vous?
Comment?
Vous avez beaucoup de pistes cyclables près de chez vous?
On est quand même pas mal desservis au Sable d'Olonne.
Ben, ça commence à être le cas d'ailleurs.
Il y a de mieux en mieux. Après, il y a pistes cyclables sécurisées. Puis vous savez, quand vous avez le petit bandeau sur la route, il n'y a même pas de séparation entre la voiture et le vélo.
Là, on se fait plus de frais.
Ici, on a une route, on peut rouler à 80. Et il y a quand même une piste cyclable, mais elle n'est pas délimitée. Donc,
oui, j'imagine que...
Le conducteur roule un peu vite et qu'il ne nous voit pas, c'est pareil.
Ouais, vous n'êtes pas très rassuré quand vous empruntez ce genre de route, raison supplémentaire pour se dire, mettons le casque. Qu'en pensez-vous ce matin? 32-16 comme Gilles, vous êtes cycliste ou pas d'ailleurs, un automobiliste, piéton, tout le monde participe au débat sur RMC. Merci Gilles, excellent dimanche.
Merci, vous de même.
Et bonne balade à vélo si c'est le cas aujourd'hui. Il est 7h21.
À suivre dans la matinale week-end.
1000 euros d'économie par an sur la facture d'électricité.
Ah, ça fait rêver. Eh bien, c'est ce que vous promettent les vendeurs de panneaux solaires, vous savez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en installer chez vous? Réponse dans le coup de main IMO dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
7h22, on va rire et sourire de l'actualité comme tous les jours avec Arnaud Demange dans deux minutes. Mais d'abord, le grand retour des panneaux solaires.
Le coup de main immobilier.
Votre rendez-vous immobilier sur RMC, les astuces, les bons plans de Marie Cœur de Roy.
Et les conseils ce matin pour faire des économies en installant des panneaux solaires chez soi. Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Marie.
Alors visiblement, on peut économiser en moyenne plus de 1000 euros par an de dépenses en énergie, expliquez-nous.
Alors oui, vous le savez, qualité des matériaux, compétences des installateurs, le marché des panneaux solaires, il a fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. Mais ce marché, justement, il redevient hyper attractif au moment, évidemment, de l'envolée des prix de l'électricité. Pourquoi ? Bah parce que les économies, vous le disiez, sont considérables. Alors, c'est évidemment un acteur du secteur qui le dit, hein, en l'occurrence le leader européen du solaire résidentiel qui s'appelle Otovo. Il a calculé les économies. Selon lui, installer une douzaine de panneaux sur le toit de sa maison, ça permet de réaliser en moyenne en France plus de 1000 euros par an d'économies, oui, mais c'est qu'une moyenne. Dans le sud, à Avignon et Marseille, on dépasse les 50 000 euros d'économies sur 30 ans, même dans les régions les moins ensoleillé, il y a toujours des économies à faire. Les habitants de la région parisienne, de Quimper ou de Metz, ils peuvent faire plus de 1000 euros d'économies par an et même plus de 35 000 sur ces fameux 30 années.
Le solaire, ça marche même si on n'est pas toujours au soleil,
ouais.
A priori.
Oui,
bon, faut quand même bien faire ses calculs parce que avant de faire les économies, il y a le coût d'installation de ces panneaux.
Ah, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Oui. Hein. Pour les 12 panneaux solaires que je vous ai pris en exemple, il faut effectivement compter 10 à 15 000 euros. Autrement dit, si mes calculs sont bons, il vous faudra 10 à 15 ans pour rentabiliser votre investissement. Et c'est vrai que quand on sait qu'on revend son logement tous les 8 ou 9 ans en moyenne, ben on peut s'interroger sur l'intérêt économique de l'opération. Mais, parce qu'il y a évidemment plein de mais, heureusement d'ailleurs, d'abord si vous revendez avant d'avoir rentabilisé l'investissement, ben vous allez pouvoir le valoriser, cette installation. Vous allez pouvoir la valoriser au moment de la revente de votre bien. Ensuite, dans l'absolu, plus les coûts de l'électricité augmenteront, plus vite vos panneaux seront évidemment amortis. En Belgique, par exemple, l'électricité, elle coûte 3 fois plus cher que chez nous. Du coup, cette même installation, elle n'est pas rentable au bout de 10 à 15 ans, mais au bout de 4 à 5 ans. Et puis, vous pouvez aussi accélérer les choses avec des aides.
Les aides comme MaPrimeRénov', ça marche aussi sur les panneaux solaires ?
Non. Alors, pas de MaPrimeRénov', hein, pas de certificat d'économie d'énergie pour les panneaux solaires. Mais vous avez une prime à l'autoconsommation, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle est publique évidemment, elle est versée progressivement sur 5 ans et elle va de 1500 à 3000 euros selon vos gains en énergie. L'autre possibilité que vous avez pour accélérer l'amortissement de votre installation, c'est de vendre votre surplus d'électricité. En gros, ce que vous aurez produit mais pas consommé sera racheté par EDF et ça pourra vous rapporter quand même plusieurs centaines d'euros par an. Alors, petite mise en garde pour terminer tout ça, vérifiez toujours l'expérience de l'installateur et surtout ne cédez jamais à l'appât du gain en choisissant des panneaux qui sont étonnamment beaucoup moins chers que les autres. On va vous garantir des mêmes économies, mais en réalité, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent effectivement trop beau pour être vrai avec très très peu d'économies à la clé.
Et comme quoi les expressions, elles sont vraies. Hein. C'est trop beau pour être vrai. Merci Marie Cœur de Roy, le coup de main IMO en podcast sur l'appli RMC, 7h25.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours, l'actualité revue et corrigée par Arnaud Demange que certains visiblement aiment écouter dans des endroits insolites.
Bonjour les amis, bonjour à tous nos auditeurs qui sont dans leur voiture, qui sont devant leur café, qui sont sous la douche parfois. Oui, toi qui nous écoutes alors que tu es tout nu, ressens-tu la force du lien qui nous unit ? Eh bien, nous sommes en communion avec toi à RMC, car notre directeur d'antenne, Grégory, m'a confié hier lui-même qu'il était sous la douche chaque matin à la même heure, l'heure de cette chronique.
On te salue.
En ce moment, Grégory, notre sensuel directeur, nous écoute dans un moment savon, un moment parfumé, un moment fruit de la passion. Ça y est, l'eau chaude ruisselle comme des perles sur ses cheveux longs. Grégory, écoute ma voix. Toi qui es en ce moment dans la chaleur, la moiteur de ta cabine de douche, et je t'accompagne. Tu es à présent plein de mousse. Toute cette mousse sur toi, déjà si conquérant.
Ça me met très mal à l'aise.
Sens-toi fort. Tu es un winner. Le corps des faibles de notre directeur d'antenne se recouvre maintenant d'une myriade de bulles multicolores qui scintillent sur son torse bronzé. Tiens, Grégory attrape son shampoing démêlant à l'huile de jojoba et à l'ADN végétal. Alors toi, l'auditeur qui te savonne aussi depuis 5 minutes en écoutant la voix sexy d'Apolline de Malherbe, je t'invite à imaginer aussi ton chef de service ou ton patron dans toute la splendeur de sa nudité la plus parfaite. C'est cet instant de plénitude que nous cherchons sur RMC. Voilà, Apolline, c'est important de nouer un vrai lien avec ceux qui nous écoutent.
Un lien.
Ah, ah, je suis convoqué au troisième étage après la
voilà. Crise.
Je vous dirai ce qui s'est passé. Il y a un petit peu de suspense.
Non, mais on verra s'il est encore là demain, 7h20, 8h20. Arnaud Demange dans Apolline Matin. Vous êtes sous la douche, vous prenez votre petit café, vous vous réveillez tranquillement. Vous êtes tous les bienvenus sur RMC. L'info, la météo, le sport, dans quelques secondes pour bien démarrer votre dimanche. À tout de suite. Bienvenue sur RMC. Peggy Broche. Un tout petit peu mieux qu'hier.
Oui, parce qu'on va avoir plus d'éclaircies sur le nord, en tout cas cet après-midi. Ce matin, c'est pas encore le cas, c'est bien gris avec quelques faibles pluies. C'est gris quasiment partout, hein, sauf entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes, où là c'est bien ensoleillé, mais avec encore beaucoup de mistral et tramontane. Et cet après-midi, alors ça restera beau dans le sud-est, toujours beaucoup de vent. Et ailleurs, on peut espérer quelques éclaircies sur le nord, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre, la Normandie. On peut espérer également apercevoir un petit rayon de soleil entre la Bretagne et le Bordelais, même si elles seront moins franches, ces éclaircies. En revanche, entre le Grand Est et le Massif Central, ça restera gris avec de faibles pluies et de la neige des 700 mètres. Tout ça sous des températures qui sont de saison, même si elles sont en baisse. 6 à Mulhouse, 8 à Strasbourg, 9 à Lille, 10 degrés à Orléans cet après-midi, 11 à Rennes, 12 à La Rochelle, 13 à Nice, 14 à Toulon, 15 à Bastia et 16 à Montpellier.
Merci Peggy. 5 février, il est 7h30, l'heure du journal. Bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, le mystérieux ballon qui a survolé les États-Unis avant-hier a été abattu.
Information confirmée cette nuit par l'armée américaine, ballon d'origine chinoise, hein, vous le savez, Washington qui accusait Pékin de l'avoir utilisé pour une mission d'espionnage au-dessus du territoire des États-Unis. Pour autant, la Chine dément ces accusations et affirme qu'il s'agissait bien d'un appareil civil utilisé à des fins météorologiques. Mais quoi qu'il en soit, le ballon a été détruit par un avion de chasse américain et Joe Biden s'en félicite.
Quand j'ai été briefé sur le ballon, j'ai ordonné au Pentagone de l'abattre dès que possible. Ils ont décidé qu'il fallait attendre le meilleur moment pour le faire lorsqu'il serait au-dessus de l'eau à l'intérieur de nos frontières. Ils ont réussi à l'abattre et je tiens à féliciter nos aviateurs.
Et tout cela ne va pas arranger les relations entre Washington et Pékin. Pékin donc qui a immédiatement réagi. La Chine, je cite, se réserve le droit de répondre et exprime son mécontentement.
En France, la réforme des retraites est le pas en avant ce matin de l'exécutif vers les députés, les Républicains.
Elisabeth Borne qui fait une concession sur les carrières longues. Si vous avez commencé à travailler à 20 ou 21 ans, vous pourriez partir à la retraite à 63 ans. C'est ce que demandent, en tout cas, dans les grandes lignes, les parlementaires, les Républicains. Et ce matin, la chef du gouvernement renouvelle aussi sa confiance en Olivier Dussopt, hein, le ministre du Travail qui est soupçonné de favoritisme dans une affaire d'attribution de marché public. Olivier Dussopt, qui est l'un des visages de la réforme des retraites, réforme qui est examinée dès demain à l'Assemblée nationale. Benjamin Haddad, député Renaissance, espère tout simplement que cette actualité judiciaire n'aura pas de conséquences sur les débats.
J'espère tout de même qu'on verra pas des groupes d'opposition commencer à instrumentaliser, à faire comme ils le font souvent, la présomption de culpabilité, des attaques personnelles. On a déjà un processus de blocage parlementaire avec 20 000 amendements, des amendements redondants, des amendements loufoques. Alors j'espère qu'on aura un débat de fond pour pouvoir améliorer notre système de retraite.
Au contraire, pour Louis Boyard, député LFI, il faut parler de la situation judiciaire d'Olivier Dussopt.
Est-ce que vous pensez que pour vous faire plaisir, on va éviter de parler du fait que effectivement, c'était pas normal quand on est ministre d'avoir de telles accusations? Monsieur, on ne vous fera pas ce cadeau pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est notre devoir en tant que responsable politique que de ramener de la moralité dans la vie politique. Deuxièmement, parce que c'est un sujet politique. Et ce n'est pas parce que vous voulez le mettre sous le tapis, parce qu'effectivement vous faites une erreur et qu'en plus vous couvrez un ministre qui n'a pas le mérite d'être couvert, qu'on va ensuite vous faire ce cadeau-là.
Dans les Vosges, on se prépare à rendre hommage à Lucas, ce jeune adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours début janvier. Quatre de ses camarades de classe vont être jugés pour harcèlement. Une marche blanche a lieu cet après-midi à 14h à Épinal.
Direction les Bouches-du-Rhône à présent, où la Seine peut surpendre pour un début février.
Un feu de forêt a frappé la région de Mouriès. 130 hectares partis en fumée, 230 pompiers mobilisés tout de même. Une situation qui est notamment expliquée par la sécheresse de cet été. Jean-Pierre Ayala est adjoint à la sécurité de la ville de Mouriès.
C'est dramatique de voir des incendies comme ça en plein mois de février.
Ah, moi, j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu parler par nos anciens. Un feu aussi tôt dans la saison. La végétation s'est séchée, mais bon, ça reste exceptionnel. On est encore sur la sécheresse de cet été. Les pluies de cet hiver n'ont pas assez humidifié les sols. Pour preuve, un incendie de cette importance. On a eu un été extrêmement chaud, qui a duré très longtemps. On a eu un printemps chaud. Notre végétation n'a pas la même réaction qu'il y a quelques années en arrière.
Il est 7h34. Bonjour Stéphanie Roch.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
RMC, le journal des sports.
Et d'abord, c'est évidemment le rugby. La France remet son titre en jeu.
C'est le retour du tournoi des Six Nations. Le 15 tricolore grand favori à 7 mois du mondial s'en va défier l'Italie à Rome cet après-midi. Une confrontation qui a tout du match piège. Wilfried Templier.
Oui, le 15 de France ne doit pas se prendre les pieds dans le tapis. Fort de leur série de 13 victoires de suite, les Bleus ont maintenant l'expérience pour bien entamer la compétition et faire mentir les chiffres, puisque depuis 5 ans maintenant, aucun tenant du titre du tournoi n'a gardé son trophée. Mais le capitaine Antoine Dupont reste serein.
Je pense qu'il faut arriver à prendre de la confiance de notre série de victoires, de ce qu'on fait depuis quelques années, mais tout en gardant cette vigilance, cette remise en question perpétuelle qui permet de ne pas dormir et de ne pas se faire surprendre. Les statistiques, depuis 3 ans maintenant, on les a pas trop respecté.
Alors tant qu'à faire, ajoutons que dans l'histoire et 46 confrontations, l'Italie n'a battu la France que 3 fois.
Ben, on va essayer de pas en rajouter.
On devrait toutefois être à l'abri, Antoine. D'ailleurs, le manager Raphaël Ibanez est satisfait des 2 semaines de stage de préparation à Cap-Breton dans les Landes et il passe un message.
Nous avons fait une bonne préparation pour ce match face à des Italiens qui sont très optimistes. Ils ont des raisons de l'être par rapport à leur récente performance, mais nous serons prêts nous aussi.
Italie-France, le match est déjà lancé.
Et il sera à vivre avec vous, Wilfried Templier, et en direct dès 16h sur RMC. Les premières rencontres du tournoi Destination se sont déroulées hier. Victoire de l'Écosse face à l'Angleterre 29-23 et de l'Irlande en déplacement à Galles 34-10.
Côté football, Paris assure l'essentiel face à Toulouse.
À défaut d'être séduisant, le club de la capitale s'est montré efficace. Victoire 2-1 face à Toulouse, des buts d'Hakimi et de Messi. Lionel Messi justement mettra à jouer du PSG en l'absence de Neymar et Mbappé. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a jugé bon de le rappeler.
Je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon et après de créer du mouvement parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il marque, il est décisif.
En attendant Marseille ce soir, Paris prend le large au classement, 8 points d'avance sur les Olympiens. Autre match hier, les victoires de Lyon à 3 et de Lille à Rennes sur le même score, 3-1.
Et puis c'est le retour de Teddy Riner sur les tatamis parisiens.
Un colosse au pied d'argile, Teddy Riner décuple champion du monde, lance sa préparation pour les JO avec ce tournoi du Paris Grand Slam. Une compétition chez lui qu'il affectionne tout particulièrement. Mais depuis quelques temps, l'icône du judo enchaîne les pépins physiques. De quoi mettre le doute dans son esprit, Morgan Moury.
D'habitude, colosse d'acier Riner a affiché ses failles cette semaine.
La vérité, c'est que quand je monte sur un tapis, j'ai peur.
Une blessure à la cheville bien retorse cet automne lui a mis le doute. Un stop qui a fait descendre sa confiance par l'ascenseur. Pour la retrouver, il a fallu prendre l'escalier.
Ça a été très dur pour moi le retour. Faire tomber, ça a été très très compliqué. Et aujourd'hui, d'arriver à s'exprimer, ouais, je suis content.
Le double champion olympique individuel a dénoué les nœuds de son cerveau. Il sait que chaque seconde perdue en vue des Jeux ne se rattrape pas.
Aujourd'hui, le temps compte. S'il y a bien un événement qu'on peut louper, c'est ces Jeux olympiques à la maison. Donc du coup, aujourd'hui, c'est débloqué. Je suis content, mais je fais attention.
Riner, c'est une mécanique de précision à chouchouter d'ici les JO. Paris, c'est dans 537 jours.
Un reportage de Morgan Moury. Et le compte à rebours est lancé. Teddy Riner n'a plus qu'un seul objectif en tête, celui d'égaler les 3 titres olympiques du japonais Nomura. Et puis un mot sur une affaire qui fait beaucoup de vagues, Mathieu. L'exclusion de Clarisse Kremer, la navigatrice et jeune maman qui devait prendre part au prochain Vendée Globe avant que son sponsor Banque Populaire ne décide de la remplacer. La raison, sa maternité. L'entreprise pourrait finalement faire machine arrière devant la déferlante de réactions outrées sur les réseaux sociaux. C'est la question centrale finalement de la maternité chez les sportifs qui se pose. Clarisse Kremer, si elle veut participer à la course en solitaire l'an prochain, devra d'abord en passer par des épreuves de qualification pour cumuler suffisamment de 1000. Reste à savoir si ce sera sur un bateau Banque Populaire ou non.
Chapeau Banque Populaire, en pleine semaine de promotion du sport féminin, de
très
visibilité du sport féminin dans les médias, c'est une info qu'on retient cette semaine. Bravo Banque Populaire et merci Stéphanie Roch. Le sport, on y revient dans quelques instants avec Wilfried Templier, avec Denis Charvet, notre Dream Team Rugby, puisque vous le savez, c'est l'une des infos du matin, le tournoi Destination et l'entrée en lice de la France. Mais d'abord, Nous allons revenir avec un témoignage de Raphaël sur un sujet qui vous a beaucoup fait réagir avant 7h30, celui du casque à vélo. Bonjour Raph.
Bonjour Raphaël.
Salut tout le monde.
Mâcon, Saône-et-Loire, conducteur de convoi exceptionnel, toujours Raph.
Toujours pour le moment, mais je crois que je vais peut-être changer de boulot.
Bien, Raph. Écoutez, parce que vous, en plus, vous avez l'habitude de rouler partout en Europe, ce casque à vélo, est-ce que vous êtes cycliste aussi ?
Alors, justement, voilà, j'avais toujours mon vélo qui était derrière mon camion, et quand j'allais à l'étranger en Europe, j'allais très 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 souvent en Allemagne, et je peux vous dire que la première fois que je suis allé en Allemagne, j'ai fait mon petit français de base, j'ai roulé sur la piste cyclable, mais quand je suis passé au feu, je suis passé au feu rouge, comme tout le monde en France.
Ouais.
Et puis alors là, je peux vous dire qu'en allemand, on m'a jappé un peu dessus.
Ouais.
Et j'ai compris que c'était pas la bonne technique. Et puis petit à petit, j'ai regardé comment ils faisaient, et c'est vrai que tout le monde est équipé de lumière, de casque, de matériel de vélo qui est assez de bonne qualité. Et je me suis équipé petit à petit. Et en fait, avec du recul, quand je roule en France en vélo avec mon matériel, donc souvent, même au boulot, moi, on me voit arriver comme ça, je passe pour un con. Et quand je regarde sur les pistes cyclables, et en fait, on est quand même assez différent des autres parce que on n'a pas encore cette culture, je crois.
Trop d'incivilité en France ?
Ah, bah oui.
Ça gratte pas le casque, ça gratte pas la tête.
Ah non, ça gratte pas. Puis moi, en plus, je m'en suis acheté un tout joli avec des lampes, des machins. Non, non, il est...
Et comme vous dites, quand on a cet équipement, peut-être qu'on a une façon différente aussi de rouler.
Oui.
On est plus prudent, plus attentif.
Exact.
Ouais. Je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là avec nous avant 7h30 qu'on a reposé ce débat sur la table ce matin puisque les chiffres de la sécurité routière publiés cette semaine faisaient état d'une hausse de 30% de mortalité chez les cyclistes en 2022, 30% par rapport à l'avant-Covid. On a quasiment 250 cyclistes qui ont été tués sur les routes de France. Hein.
Bah, c'est énorme.
Et les associations de cyclistes qui continuent de dire il faut pas imposer ce casque à vélo parce que ça dissuaderait certains cyclistes occasionnels de pratiquer.
Non mais dans ce cas, ce qu'il faudrait, c'est dire aux assurances, parce qu'il y a bien même l'assurance maladie. Vous êtes tombé à vélo, vous êtes blessé, ça a coûté tant, on va pas vous rembourser tout parce que vous étiez pas protégé correctement.
Ça, c'est une autre manière plutôt incitative, voire dissuasive. En tout cas, le débat est régulièrement porté jusqu'à l'Assemblée et au Sénat. On verra si c'est à nouveau le cas. Mais ce que je retiens dans tous vos témoignages ce matin, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux, non seulement à être favorable à l'obligation du port du casque à vélo, mais en plus à le pratiquer vous-même, comme c'est le cas pour les enfants de moins de 12 ans. Oui, Raph, un dernier mot.
Ce qui est assez marrant, c'est que souvent, on voit les parents qui font mettre des casques aux enfants pour pas qu'ils fassent mal, parce qu'on a peur de son enfant. Quoi.
Et eux-mêmes n'en portent pas.
Et puis pour les adultes, c'est différent, quoi. Et c'est ce que disait votre collègue, juste. Quand on met pas de casque, on a l'impression qu'on est. C'est comme pour la ceinture, en fait. Si on met pas la ceinture en voiture, on s'en fout de tout. Et c'est comme on met pas de casque, on met pas le reste, on s'en fout de toutes les règles.
Effectivement, vous avez raison. Merci Raph de votre témoignage très éclairant.
Très belle journée.
Bonne journée à vous, bon repos en ce dimanche. Allez, 7h41, dans un instant.
Deux invités pour le prix d'un.
Oui, pour cause. Grande occasion, je le disais, début du tournoi Destination France-Italie, c'est ce soir. Wilfried Templier, notre spécialiste rugby, Denis Charvet de la Dream Team RMC Sport nous attendent à Rome et ils sont avec nous dans deux minutes.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, soyez les bienvenus sur RMC, il est bientôt 8h et dans un peu plus de 8h, faites vos calculs, la France fera son entrée en lice dans le tournoi Destination.
L'invité du jour.
Wilfried Templier, Denis Charvet, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Nos spécialistes rugby sur RMC, c'est vous qui allez nous faire vivre ce premier match du 15 de France. Le coup d'envoi, c'est donc à 16h, Stade Olympique de Rome face à l'Italie. J'allais dire presque une formalité, 46 confrontations entre les deux pays et seulement 3 défaites pour la France, Wilfried Templier.
Bah oui, dans les chiffres, les chiffres sont têtus, on a envie de dire, c'est vrai. 3 défaites dans l'histoire, 97, 2011, 2013 et... On célèbre, j'allais dire, on va pas célébrer les 10 ans de la dernière défaite française à Rome, 23-18, et depuis, les Français n'ont plus perdu. Donc, évidemment, les statistiques plaident en leur faveur, mais Mathieu, vous savez, un match n'est jamais gagné d'avance.
Attention au piège, voilà pour les stats. L'enjeu, c'est quoi, Denis ? Faire bonne impression dès le début du tournoi ? La France est tenante du titre, série de 13 victoires consécutives, on n'a pas le droit de trébucher, là.
Bah, ça serait une catastrophe si on arrivait à perdre aujourd'hui, mais on peut pas l'imaginer. Alors après, un match de rugby, il faut le jouer. Il y a 10 ans, on a perdu. Le contexte n'est pas le même. C'est une équipe de France aujourd'hui qui maîtrise son sujet, qui est plus mature même qu'il y a quelques mois. Donc, à l'approche de la Coupe du Monde, il faut faire bonne figure. Il faut pas passer à côté de son propre jeu, sa propre stratégie. C'est des garçons qui sont très à l'écoute du staff, qui parfois le staff leur reproche d'être trop justement
dans le cadre.
Oui. Et donc on peut s'attendre aujourd'hui à ce que les Français jouent davantage qu'à l'habitude, c'est-à-dire que après cette tournée d'automne, on leur reprochait un peu de trop taper dans le ballon. Maintenant, je pense qu'on risque de voir les Français attaquer davantage.
Alors justement, que se passe-t-il dans leur tête? Est-ce que les joueurs s'imaginent que la France est à l'abri de toute déconvenue tout à l'heure? Écoutons le capitaine Antoine Dupont.
À l'abri, on l'est jamais, mais je pense qu'il faut arriver à prendre de la confiance de notre série de victoires, de ce qu'on fait depuis quelques années, mais tout en gardant cette vigilance, cette remise en question perpétuelle qui permet de pas dormir et de pas se faire surprendre sur un match, sur une action, sur un fait de jeu, de garder vraiment cette vigilance-là au quotidien. Les statistiques, je pense que depuis 3 ans maintenant, on les a pas trop respectées, donc espérons que ça continue.
Bon, on sent qu'il y a quand même une certaine pression, c'est évident et c'est bien normal. Les dernières infos vestiaires, Wilfried?
Tout va bien. Tout va bien, il y avait déjà eu des blessés. Alors, la France débute ce tournoi de destination avec quand même quelques joueurs qui ont fait le grand chelem l'année dernière, qui ne sont pas là, qui sont blessés. On pense à des Cameron Wauquiez en deuxième ligne, à des Jonathan Danty au poste de centre, Gabin Villiers, l'ailier, devait revenir cette semaine. Il s'est blessé à nouveau, fracture du péroné, blessure grave. On a aussi Beato Movaca qui partage le poste de talonneur avec Julien Marchand. Donc, il y a quand même des cadres qui sont absents, mais il y a un réservoir de joueurs que Fabien Galthié a éprouvé depuis 3 ans maintenant qu'il est le sélectionneur, même pendant les tournées d'été où il a complètement changé l'équipe, qui fait que voilà, un joueur étant remplacé par un autre, et normalement le rendement de l'équipe ne s'en ressent pas. Donc a priori tout va bien et on débute ce tournoi avec beaucoup de force.
On peut parler, Mathieu, de génération dorée, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a rarement eu dans l'histoire de l'équipe de France un tel réservoir où effectivement tu changes un joueur pour un autre, ça change pas grand chose, excepté peut-être un seul joueur qui s'appelle Antoine Dupont, oui. qui est un joueur.
Il faudrait pas le perdre.
Mais ça veut dire, Denis Charvet, qu'on peut d'ores et déjà dire, avant même le premier match, que ce 15 de France est en position de remporter ce tournoi à nouveau?
Ben, c'est ce que je pense. Après, on a vu les matchs hier de l'Angleterre, de l'Irlande, qui ont été assez impressionnants.
29-23, victoire de l'Écosse face à l'Irlande, à l'Angleterre, pardon, et l'Irlande 34-10 face au Pays de Galles.
Il y a eu quand même une démonstration des Irlandais sur les terres galloises. Il y a
Cardiff,
eu des Anglais qui ont vraiment fait plus que la résistance face à des Écossais déchaînés. Mais bon, la France reste sur 13 victoires. Elle est dans une très bonne dynamique. Comme l'a dit Antoine Dupont, ils sont pleins de confiance. Et ça fait souvent la différence au plus haut niveau. Il y a la qualité des joueurs, mais il y a aussi cette confiance qu'on emmagasine et qui fait que le collectif s'en ressent, qu'on est plus fort dans les moments où on est face à l'adversité, qu'on a du mal on est en grande difficulté, on trouve des ressources morales pour l'emporter. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui avec l'équipe de France et qui risque au bout du compte de les faire gagner ce tournoi.
Avec, vous le disiez, une très belle campagne d'automne. Côté adversaire, l'état de forme, de qui il faut se méfier le plus? Les Anglais, les Gallois, Wilfried?
Les Irlandais, parce que l'équipe d'Irlande. Alors la France est tenante du titre avec le grand chelem l'année dernière du tournoi, mais sur les résultats complets de toute l'année, il y a un classement mondial et l'Irlande est numéro 1 depuis plusieurs mois, parce que l'Irlande s'est imposée en Nouvelle-Zélande, a battu comme la France les champions du monde sud-africains à l'automne, et hier on le disait, a gagné 34-10 au Pays de Galles. Si. Avec pour ceux qui ont vu le match, vraiment une impression de puissance, de vitesse, et voilà, c'est le danger, c'est le sommet. La semaine prochaine, alors c'est le problème pour l'équipe de France, il faut vraiment bien penser à l'Italie aujourd'hui, parce que tout le monde a déjà les regards tournés vers samedi prochain, oui. Vers Dublin. C'est le sommet de cette année avant la Coupe du Monde. La France a joué des matchs comme ça. Le premier match de Galthié en 2020 face à l'Angleterre. Il y a 2 ans, la Nouvelle-Zélande à domicile, on les a battus. L'année dernière, l'Afrique du Sud, championne du monde, on les a battus. C'est le 4e sommet de l'ère Galthié en Irlande. Donc franchement, s'il y a une équipe qui peut contrecarrer quand même pratiquement chez les bookmakers favorites pour remporter le tournoi, hein, c'est l'Irlande.
Bien, bon, alors il faudra se méfier de l'Irlande, mais si je vous suis depuis le début, là, messieurs, on a quand même toutes en poche dans notre besace pour au moins se confronter aux Irlandais, voire à nouveau remporter ce tournoi. Juste d'un tout petit dernier mot, il y a quand même cette affaire Laporte. Est-ce que c'est dans la tête des joueurs? Est-ce que ça peut jouer ou pas du tout?
Non, j'ai envie de dire. Ça, ça
on est sur le terrain, parce... là. Ça,
oui,
ça
oui,
a rien à voir.
Non, mais, non, mais parfois, moi, j'ai été joueur d'équipe de France. Parfois, il y a quand même des remous. C'est toujours déstabilisant quand il y a des affaires extrasportives. Mais là, les joueurs sont très proches de Bernard Laporte. C'est eux-mêmes qui ont demandé à Bernard de venir dîner jeudi soir.
Ouais. Qui est passé, on explique aux gens, qui est passé au stage de préparation de l'équipe de France jeudi.
Voilà, juste staff, avant le départ à Rome.
Fabien Galthié l'a voulu. Le capitaine Antoine Dupont a insisté pour qu'il soit là. Donc, il est quand même très proche des joueurs. Et puis il était entraîneur, il faut pas l'oublier, c'était un très grand entraîneur qui a prouvé sa valeur. Donc il apporte par rapport au sportif une confiance supplémentaire. Enfin, il amène quelque chose, une âme supplémentaire, parce que il connaît trop ce job pour rester neutre dans l'histoire. Voilà. Donc on aurait pu penser que ça serait un peu déstabilisant, mais au bout du compte, pour avoir des infos, tout va bien. Et ça a fait du bien même aux joueurs, ça a fait du bien à tout le monde.
Et quoi qu'il arrive, l'important, c'est le terrain. Ce sera donc tout à l'heure, 16h, en direct sur RMC. Bien sûr, c'est vous, messieurs, qui nous ferez vivre ce match.
Avant match dès 15h, Mathieu.
Avant match dès 15h, dans l'intégral sport de Christophe Cessieux sur RMC. Merci Denis Charvet, merci Wilfried Templier, et à tout à l'heure.
Bonne journée.
7h51. Merci.
À suivre dans la matinale week-end.
Le retour de l'un des romanciers les plus célèbres du monde.
Salman Rushdie, victime d'une attaque au couteau cet été. Il publie un nouveau roman mercredi prochain et c'est le portrait de Panka dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
7h51, soyez les bienvenus. On se réveille ensemble jusqu'à 9h. C'est l'heure de Nicolas Poincaré.
RMC, la matinale week-end.
Le portrait de Poincar.
Chaque dimanche, la personnalité qui fera l'actualité de la semaine prochaine avec Nicolas Poincaré.
Et ce matin, c'est l'un des romanciers les plus connus au monde, Salman Rushdie. Vous vous souvenez, victime cet été d'une attaque au couteau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour. Son nouveau roman sera publié mercredi prochain, mais Salman Rushdie ne donnera aucune interview.
Et pour cause, Salman Rushdie a été grièvement blessé le 12 août dernier. Un jeune Américain d'origine libanaise lui a porté plusieurs coups de couteau au moment où il allait faire une conférence dans l'État de New York. Salman Rushdie a survécu, mais il a perdu un œil et l'usage d'une main. L'écrivain a longtemps été un des hommes les plus protégés du monde, vivant caché, se déplaçant sous de faux noms, entouré de gardes du corps et de policiers. Je l'avais interviewé il y a une dizaine d'années pour un livre où justement il parlait de l'enfer de cette vie clandestine. À Paris, la rue de son hôtel avait été fermée plusieurs jours par la police. Tout cela après donc la publication d'une fatwa iranienne. Une fatwa, c'est un décret religieux qu'il avait condamné à mort en offrant une forte récompense à quiconque parviendrait à le tuer. C'était en 1989. L'écrivain anglais d'origine indienne avait publié un roman, Les Versets sataniques, qui avait été jugé blasphématoire. C'est l'actuel président iranien, Ali Rahmani, qui avait édicté cette fatwa et qui l'a réactualisée depuis à de nombreuses reprises. Et cette fatwa a d'ailleurs fait de nombreux morts dans le monde. Les traducteurs japonais et italiens du livre ont été poignardés. Deux religieux musulmans qui avaient critiqué la fatwa ont été assassinés à Bruxelles. Des violences ont eu lieu partout dans le monde. Et le pire a eu lieu en 1993. Le traducteur turc de Salman Rushdie, menacé, s'était réfugié dans un hôtel. Les manifestants ont mis le feu à l'hôtel et 37 personnes sont mortes. Depuis, Salman Rushdie est vraiment le symbole et la victime de la plus grave atteinte contre la liberté de penser et la liberté d'écrire.
Son prochain roman, qui sort donc mercredi, s'appelle Victory City.
Oui, c'est l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui vit dans l'Inde du 14e siècle et qui, avec des pouvoirs magiques, contribue à créer une ville qui se libère du pouvoir des hommes et où les femmes peuvent vivre sans se voiler et sans se cacher. Alors, bien sûr, on y voit aussitôt un hommage à la révolte des femmes en Iran, mais on a sans doute tort parce que le livre a été écrit avant les événements actuels et parce que Salman Rushdie est d'abord un écrivain mondialement reconnu. Son 15e roman est donc beaucoup plus poétique que politique.
Merci Nicolas Poincaré. Tiens, restez là Nicolas et Peggy. Imaginez un peu si on pouvait vous faire dire n'importe quoi en imitant votre voix. Eh bien, figurez-vous que c'est désormais possible, ça n'est plus réservé aux imitateurs. Vous pouvez le faire grâce à un tout nouveau logiciel qui crée la polémique et dont va nous parler Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Ce logiciel est capable de cloner n'importe quelle voix à partir de quelques mots seulement.
Oui, alors ça peut être la vôtre, la mienne ou celle d'un acteur célèbre, par exemple, reproduite à la perfection à partir d'un petit extrait vocal. Alors il y a plusieurs projets en date, mais le dernier, vous pouvez le tester gratuitement d'ailleurs depuis quelques jours, il s'appelle Eleven Labs. Donc le principe, c'est que vous allez lui envoyer un extrait audio d'une minute de n'importe qui.
On reprend le podcast de votre chronique, par exemple.
Par exemple, exactement. Alors plus l'extrait est long, plus ça va être précis, mais à partir d'une minute, ça passe. Et à partir de ces quelques phrases, eh bien cette intelligence artificielle à laquelle on a appris à décortiquer et à recomposer une voix dans ses moindres nuances, elle va être capable de recréer votre spectre vocal avec une grande précision, de cloner votre voix en fait, et de vous faire potentiellement dire n'importe quoi. Alors c'est gratuit. Ouais. Pour l'instant, il est programmé surtout pour fonctionner avec des voix américaines. Je vous dis ça parce que moi je l'ai testé et du coup, alors il a reproduit ma voix, mais j'avais un gros accent texan comme ça. Et du coup, ça casse un petit peu le réalisme.
Bon, c'est drôle avec l'accent, mais c'est surtout effrayant parce que ça veut dire qu'on peut usurper l'identité de n'importe qui et lui faire dire n'importe quoi.
Oui, et d'ailleurs, à peine cet outil mis en ligne, eh ben les dérives ont commencé. On lui a fait dire des choses absolument dingues, ce qu'on appelle des deep fakes. Par exemple, il y a un extrait qui a fait le tour du web. On y entend une star du cinéma, Emma Watson, qui lit des extraits de Mein Kampf.
Ah oui.
Voilà. Alors c'est vraiment sa voix. On la reconnaît parfaitement, sauf qu'évidemment, c'est pas vraiment elle qui lit ça. C'est donc en fait, on a cloné sa voix et on lui a fait lire ses extraits.
Elle a le droit de déposer plainte contre.
Alors j'imagine que oui. Alors ça pose des questions, mais peut-être contre les concepteurs du logiciel. En tout cas, ça va poser des questions. Alors d'ailleurs, les concepteurs du logiciel essayent de se dédouaner un peu en disant non, mais on va prendre des mesures de sécurité. On va demander aux gens maintenant qu'ils donnent une pièce d'identité pour pouvoir s'inscrire, pour éviter les dérives. Bon, on verra ce que ça donne, mais clairement, il va y avoir un certain nombre de problèmes. Partie cybercriminalité aussi. Vous savez, les fameuses arnaques au président où on se fait passer pour un chef d'entreprise en imitant sa voix. Bah là, vous imaginez, vous allez pouvoir cloner la voix d'un chef d'entreprise, appeler un subalterne et puis lui faire débloquer des fonds, verser de l'argent sur tel ou tel compte, etc. Donc il y a vraiment des gros problèmes en vue.
Alors, il y a le côté négatif, mais on peut aussi trouver des applications assez utiles avec ça, dans le cinéma par exemple.
Bien sûr, plus besoin de s'embêter avec des doublages approximatifs. On va juste traduire ce que dit un acteur en version originale, passer sa voix dans ce logiciel et on va se retrouver avec une version française doublée plus vraie que nature, avec la vraie voix de l'acteur. On va aussi pouvoir s'en servir pour ressusciter la voix d'un acteur disparu ou la voix de jeunesse d'un acteur qui a vieilli. Autres applications, les livres audio qui vont pouvoir être lus à un enfant en utilisant la voix de ses parents, par exemple. La traduction instantanée, vous parlez en français et votre interlocuteur va entendre votre voix, mais en japonais. Et puis, dans les jeux vidéo aussi, la possibilité de personnaliser à l'extrême. Le personnage que j'incarne à l'écran pourrait avoir ma voix dans la vraie vie, sans compter le domaine médical, pour redonner une voix à ceux qui l'ont perdue, par exemple.
Anthony Morel, c'est déjà demain qu'on retrouve en podcast sur l'appli RMC, tout comme le portrait.ca. Merci messieurs et bon dimanche. Allez, dans un instant, on va bouger. C'est pas moi qui le dis, c'est Elisabeth Borne. La première ministre dans le journal du dimanche donne des gages aux Républicains pour faire passer sa réforme des retraites. Décryptage du service politique d'RMC dans le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
La matinale week-end.